au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 15 septembre, j'espère que vous avez passé une belle journée. Au programme aujourd'hui avec Pierre Paquette, on aura l'occasion de revenir sur le meurtre du militant d'extrême droite Charlie Clark aux États-Unis, Charlie Kirk plutôt aux États-Unis. Luc Paravecchio sera avec nous. Oui, on va parler du centre de d'amitié autochtone de la Lanaudière là et des derniers développements sur l'école primaire qui est destinée aux Premières Nations. Également la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière, avec qui on va jaser du bras de fer là, présentement là, qui tient lieu entre les médecins et les omnipraticiens. Pascal Derry, député de Repentigny et nouvelle ministre de l'Emploi, sera avec nous. Mais pour débuter, ben, c'était la rentrée parlementaire plutôt aujourd'hui à Ottawa et le gouvernement minoritaire de Mark Carney est sous pression en raison là, des sauts d'humeur du président des États-Unis, surtout, comme l'a indiqué à François Morin, notre analyste politique Mathieu Bélanger, là, du budget qui sera encore largement déficitaire. On écoute un entretien entre François Morin et notre analyste politique Mathieu Bélanger.
C'est sûr que le gros morceau cet automne, c'est le budget qui est attendu le mois prochain. Effectivement, qu'on présume qu'il va être hautement déficitaire, il y a des analystes qui s'attendent à ce que ça tourne autour du 100 milliards de dollars de déficit, ce qui est énorme, du moins énorme par rapport à ce à quoi on était habitué dans les derniers temps. Et Mark Carney nous a déjà dit en plus que pour lui, ça serait un budget d'austérité et d'investissement. Et on sait qu'un des volets d'investissement, ça va être tout ce qui concerne la défense. C'est déjà des objectifs qu'il s'est fixé d'augmenter significativement nos dépenses en défense. Pour le reste, on va voir comment concilier donc le fait que Mark Carney souhaite ne pas couper les versements aux provinces, ne souhaite pas couper les versements aux citoyens, mais en même temps être capable de faire de l'austérité justement et de s'attaquer à la dette tout en faisant des investissements, puis le voir aussi où exactement il va faire ces investissements-là. C'est évidemment les grands projets qui ont été annoncés la semaine passée en lien avec la loi C-5, donc sur la loi sur les grands projets finalement, justement. Donc certains projets qui ont été annoncés là, ici et là au pays dans une première vague pour créer du développement économique. C'est son objectif de faire transformer l'économie canadienne de ce que c'était jusqu'à l'an passé à autre chose en cette ère trumpesque et post-Trump éventuellement. Donc, c'est des gros défis. Et surtout, ben, dans tout ça, il aura besoin toujours de l'appui d'au moins un des partis d'opposition, étant donné que ça demeure un gouvernement qui est minoritaire. Et ben, faut voir justement quel parti va vouloir l'appuyer ou au moins ne pas s'opposer suffisamment au point de faire tomber le gouvernement. C'est toujours une stratégie que les partis peuvent utiliser de ne pas être présents en chambre lors du vote ou en nombre très réduit pour montrer qu'on n'est pas content, mais sans faire tomber le gouvernement. Mais il faudra voir donc les stratégies employées par les partis politiques d'opposition et surtout avec un budget qui s'annonce, comme on le mentionnait, très déficitaire, mais là aussi les citoyens vont vouloir que leur parti se positionne d'une façon ou d'une autre. Et reste à voir donc comment tout ça va se dérouler au courant là, des prochaines semaines.
Si on revient un peu justement sur l'austérité, ça risque peut-être de passer par une coupure quand même assez importante au sein de la fonction publique qui, même si elle est très nombreuse, est qualifiée d'inefficace par plusieurs.
On a vu au courant des dernières années plusieurs dossiers dans lesquels la fonction publique fédérale avait de la difficulté à rendre les services. Évidemment, la question des passeports là, revient en tête pour ceux qui se souviennent de cette saga-là. Et sous le mandat de Justin Trudeau comme premier ministre, bien, la fonction publique a beaucoup grossi, même si on met de côté là, le contexte particulier de la pandémie, où là l'État était particulièrement actif, mais dans un contexte très précis. On sait que le gouvernement a déjà donné la consigne au ministre de trouver 15% de dépenses, oui, à couper dans les différents ministères, ce qui risque de braquer le NPD par ailleurs, qui est plutôt proche des syndiqués et notamment des syndiqués de la fonction publique. C'est un peu une quadrature du cercle à laquelle est appelé à répondre le gouvernement. Bon, c'est souvent le cas que un ministre des Finances doit gérer des vents contraires, mais notamment ici, donc, en ayant un budget très déficitaire, en proposant en même temps de l'austérité, notamment au sein de la fonction publique. On a hâte de voir comment être capable de concilier tout ça, toujours dans l'idée aussi d'avoir l'appui d'au moins un des partis d'opposition. Et là-dedans, bon, je le mentionnais, le NPD qui, a priori, devrait être plutôt défavorable principe avec les coupures comme ça dans la fonction publique. Le Parti conservateur, l'opposition officielle, ben, on le voit mal appuyer un budget du gouvernement de par son titre d'opposition officielle. Il reste le Bloc québécois, qui faut voir comment que le Bloc va se positionner, et ça on saura lorsque le budget sera déposé. Chose certaine, ça risque d'être tumultueux les prochains mois, et faut toujours garder en tête que un accident peut arriver, parlez-en à l'ancien premier ministre Joe Clark, qui justement s'est fait battre sur un budget quelques mois après les élections, donc gouvernement minoritaire, alors qu'il n'y s'y attendait pas du tout. Ça se peut arriver, surtout que lorsqu'un parti politique est très proche d'être majoritaire, comme c'est le cas actuellement avec les libéraux, il leur manque 3 sièges pour être majoritaire, mais après ça, on peut mal calculer les réticences des partis d'opposition à entraîner des problèmes. Il nous reste beaucoup d'éléments à connaître dans le budget, et c'est ça qui va être déterminant là, pour la suite des choses.
En terminant, puisque le NPD n'a plus le poids politique qu'il avait à la Chambre des communes, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, le jeu du Bloc québécois de tenter justement d'influencer le gouvernement dans le choix de certaines politiques ou certains programmes.
Avec ses 7 députés, le NPD a suffisamment de députés pour faire la balance du pouvoir aussi. Tout comme le Bloc québécois, évidemment, comme le Parti conservateur. Donc, si les libéraux réussissent à avoir l'appui du NPD, ils sont saufs. Cependant, on est loin de la dynamique qu'on avait sous l'ancien Parlement, où il y avait une entente formelle là, entre le Parti libéral et le NPD. Il n'y a rien de tel à l'horizon, puis on n'imagine pas quelque chose comme ça arriver. Donc, pour les prochains temps, ça donne un peu plus d'espace pour le Bloc québécois de jouer ce rôle-là d'opposition. Et de peut-être là, réussir à pencher la balance du pouvoir d'un côté ou de l'autre, de pousser le Parti libéral à adopter certaines positions et pas d'autres. Mais ça reste à voir. La loi, justement, sur les grands projets, finalement, c'est par l'appui du Parti conservateur que les libéraux ont réussi à faire adopter cette loi-là. Donc, c'est pas gagné d'avance pour le Bloc québécois. Ça va être son défi de faire passer ces messages, et des défis demeurent nombreux pour l'ensemble des partis politiques d'opposition, justement, dans un terrain très glissant, qui est le contexte actuel, toujours dans le contexte avec la guerre commerciale avec les États-Unis.
Bon, voilà, c'était Mathieu Bélanger, notre analyste politique sur la rentrée parlementaire là, qui a lieu aujourd'hui. Du côté d'Ottawa, il est 16h15. Dans un moment, la députée de Repentigny et nouvelle ministre de l'Emploi, Pascale Derry.
C'est le retour à la routine avec les enfants. Pas le temps de cuisiner ou en manque d'inspiration? La Fromagerie Victoria a la solution avec sa boutique maison. Lasagne, panne repas, sauce italienne, fromage en grains, tortillons, il y a de quoi être inspiré pour les lunchs de la famille. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie, à Saint-Germain-de-Grand-Âme, Marché du Village, à Victoriaville, Épicerie J. Provencher sur la rue Notre-Dame, Canadian Tire, Essence Plus, Dépanneur P10, Groupe Visaco, Pharmacie Uniprix sur la rue de l'Aqueduc, Dépanneur du Parc, Ballon Style, à Plessisville, Dépanneur Irving, Groupe Gagnon, à Sainte-Clotilde-de-Horton, Marché Ami, à Princeville, Pharmacie Family Prix, à Saint-Léonard-d'Aston, Pharmacie Family Prix Isabelle Fleurant. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'événement Prenez la route Hyundai est de retour. Cet été, que vous empruntiez la 10, la 15 ou la 132, votre taux de financement sera de 0% à l'achat du Ioniq 6 2025. Plus, recevez jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. Ou louez la version Preferred longue portée à partir de 1,99% avec des paiements hebdomadaires de 100 $. Avec ses 581 km d'autonomie, c'est facile d'électriser son été avec Hyundai. Les conditions s'appliquent. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. Cette semaine, la sauce barbecue Kraft 455 ml est à 97 cents. Les raisins verts ou rouges sans pépins sont à 1,37 la livre ou 3,02 le kilo. Puis le beurre lactancia 454 grammes est à 4,86. On fait fondre les prix comme du beurre dans le poêle. Mais ce qui est vraiment capoté, c'est que la grande vente à Yoy, ben ça dure pas juste une journée. Hey, c'est super, super C. Valide jusqu'au 17 septembre en magasin et en ligne. Détails au supersic.ca.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226. Avec vous, partout dans la Naudière.
Charlemagne, Saint-Esprit, Mascouche, Saint-Émilie de l'Énergie.
CFNJ, 99.1-88.9. Ici, les chansons américaines, c'est comme les marques américaines. On n'en consomme pas. La Naudière PM. Politique provinciale.
Il est 16h18. La députée de Repentigny et nouvelle ministre de l'Emploi, Pascale Derry, se sent d'attaque là, pour mener à bien les dossiers qui vont lui être soumis. Alors que, faut le rappeler, l'élection générale est dans un an. Madame Derry, qui apprécie là, quand même avoir encore la confiance du premier ministre, Régent Turgeon a eu l'occasion de la rencontrer.
Ah, c'est vraiment une belle marque de confiance de notre premier ministre, Monsieur Legault. Belle marque de confiance, non seulement pour le ministère de l'Emploi, mais aussi une belle marque de confiance pour la région de la Naudière. D'abord, je veux saluer ma collègue Caroline Proulx, qui a assumé cette fonction-là au cours des dernières années avec brio. Beaucoup de choses ont été faites au cours des dernières années dans la Naudière, puis c'est beaucoup grâce à elle. Alors, je vais essayer de reprendre le flambeau, puis essayer d'être à la hauteur des attentes dans la Naudière, parce qu'évidemment, les réalités sont pas pareilles au nord et dans le sud. Donc, on va continuer de travailler fort avec mes collègues députés de la région.
Un plus grand défi que l'enseignement supérieur?
Ben moi, je vous dirais que c'est un peu la continuité. Hein? Juste après que je me suis fait assermenter, il y avait plusieurs recteurs qui étaient là dans la salle avec nous, puis plusieurs recteurs qui étaient ravis de me dire, ben on va se revoir dans pas long, parce que justement, à l'emploi, il y a des vases communicants avec l'enseignement supérieur. J'ai été à l'enseignement supérieur 3 ans. J'ai travaillé étroitement avec ma collègue Catherine Champagne-Jourdain à l'emploi sur des programmes de bourse, sur des programmes d'aide à l'emploi, de formation. Donc, c'est clair qu'il y a des vases communicants. Je vais les retrouver aussi sur la CPMT, cette fameuse commission qui s'occupe justement du travail, de la formation, du soutien aux travailleurs. Fait qu'on va être capable de continuer à collaborer avec le réseau de l'enseignement supérieur.
On dit que vous souhaitiez apparemment un ministère qui soit à caractère plus économique, c'est vrai?
Oui, puis M. Legault aussi, je pense qu'il souhaitait que je contribue à sa priorité économique, parce qu'on l'a vu, sa priorité, c'est les emplois, c'est l'économie, d'autant plus que dans le contexte actuel, ça va être un peu plus compliqué, c'est-à-dire on a déjà de l'incertitude face à nos voisins du Sud, et il y a possiblement, puis on souhaite que ce soit pas le cas, mais il y a quand même possiblement une récession économique à l'horizon, et si c'est le cas, ben on va avoir beaucoup de travail à faire avec des entreprises qui vont vivre des pertes d'emploi. Donc, ma job maintenant, c'est d'aller soutenir ces travailleurs-là, de m'assurer de les requalifier, de les replacer. Puis je sais que dans la Naudière, on a beaucoup d'entreprises clés et beaucoup d'entreprises, justement, qui ont déjà vécu cette incertitude puis qui ont déjà vécu l'impact un peu des tarifs douaniers. Donc, il faut soutenir ces gens-là. Là.
Vous me devancez parce que j'allais parler de vos priorités, parce que le mot « emploi » peut dire beaucoup de choses, notamment employabilité, formation professionnelle. Il y a des défis, là.
Absolument. Il y a des défis, mais on a quand même soutenu la formation professionnelle. Je vous dirais, surtout mon collègue Bernard Drainville. Maintenant, évidemment, ce sera ma collègue à l'éducation, Sonia Lebel, qui va prendre le dessus là-dessus. Mais la formation professionnelle, c'est important. On y a mis beaucoup de sous, beaucoup de ressources pour être capable, justement, de former les travailleurs de demain, former davantage, requalifier surtout. Nos universités, nos collèges font déjà un travail extraordinaire pour avoir travaillé avec eux là-dedans. Mais en formation professionnelle, il y a aussi beaucoup de travail à faire. On va continuer de valoriser les secteurs clés, les secteurs de la construction, notamment en formation professionnelle, mais aussi continuer à soutenir les services publics. Encore une fois, éducation, santé, ça reste encore les priorités. Il y a encore de la pénurie, mais je suis très heureuse de vous dire qu'on a fait un énorme bout de chemin au cours des dernières années, particulièrement en santé et en éducation. Non seulement on a bonifié les conventions collectives puis les relations de travail puis les salaires, mais on a aussi, dans nos collèges et universités, une augmentation substantielle du nombre d'étudiants québécois, donc les futurs travailleurs. Et ça, pour moi, c'est une belle victoire, une belle réussite en enseignement supérieur aussi, là.
Monsieur Legault a invité votre collègue, là, France-Hélène Durand-Sault, à trouver des façons de rendre le gouvernement plus efficace. Est-ce qu'on doit craindre des compressions budgétaires qui pourraient justement compliquer votre mandat?
Ben écoutez, je pense que en termes de bureaucratie, ça va au-delà des budgets. Là. La bureaucratie, là, c'est vraiment l'efficacité de l'État là, dont on parle. Je vous donne un exemple. Il y a des ministères qui sont quand même très gros, que ce soit santé, éducation, même moi, l'emploi, ce sont quand même des ministères très gros. Est-ce qu'on est capable de simplifier les choses, d'alléger les choses? Puis c'est là-dedans aussi, il faut être capable de réduire cette bureaucratie. C'est vrai qu'on l'a promis en 2018, puis Monsieur Legault le n'ira pas. Ça a été difficile d'y arriver. Quand on est arrivé, il fallait donner un grand coup de barre aux effectifs qu'on avait puis aux services à la population. Donc, c'est clair que le nombre d'effectifs dans la fonction publique a augmenté. Mais là, maintenant, je pense qu'il faut les réduire. C'est ce qu'on fait déjà. On en réduit déjà. Mais en termes de bureaucratie, de paperasse, puis d'alléger la tâche aux entreprises, puis d'alléger aussi nos ministères, nos gros ministères, je pense que ça va être c'est la priorité, une des priorités, vous l'avez bien entendu lors du discours de M. Legault, mais ça va être une des priorités de ce gouvernement-là. Puis il faut être capable de faire tout ça en peu de temps. Donc c'est ça le défi, c'est que le délai est de plus en plus court, mais on va y arriver, on est motivé pour y arriver. Puis je pense que Mme Durand-Sault aussi au Trésor va faire un travail exceptionnel à ce niveau-là. Là.
C'était Pascale Derry, la députée de Repentigny, nouvelle ministre de l'Emploi, là, qui a beaucoup de pain sur la planche d'ici les prochaines élections là, pour essayer de dorer la pilule, si vous voulez, du gouvernement Legault là, pour les prochaines élections, parce que, rappelons que dans les sondages, ça va vraiment, vraiment pas bien pour le gouvernement Legault. Et là, on sent que c'est un blitz là, jusqu'à la prochaine élection dans un an.
Lanaudière PM. Santé.
La partie de bras de fer entre les omnipraticiens et le gouvernement se transporte maintenant devant les tribunaux. Les médecins accusent le gouvernement de ne pas négocier de bonne foi le renouvellement de l'entente cadre. Et François Morin en discute avec la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens, Laurentie de Lanaudière. Oui, la docteure Lynn Couture.
Dans ce qu'on a déposé en cours, on demande qu'il y ait un 90 jours de négociation intensive. Nous, on y croit à la négociation. On ne peut pas penser que pour la population, une entente n'est pas ce qui pourrait être le mieux. Puis quand on dit qu'on pense que la négociation n'était pas de bonne foi, ce qu'on dit, c'est que le premier dépôt du gouvernement était en nous. Un mois plus tard, la Fédération est revenue avec une contre-proposition. Le gouvernement est revenu juste en mars sans tenir compte de la contre-proposition de la Fédération et en fait en durcissant le ton de la première proposition. Et ça, mars, donc fin mars, et vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mai, le projet de loi 106 a été déposé. Donc pour nous, on pense que tout ça a été fait ensemble et que c'était déjà là. Donc qu'il n'y avait pas vraiment l'intention de négocier, il y avait l'intention d'imposer la loi 106, le projet de loi 106. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une négociation de bonne foi. Mais nous, on continue de penser qu'il n'y a rien de mieux qu'une entente pour la santé des Québécois.
Pour monsieur, madame, tout le monde, on peut avoir de la difficulté à s'y retrouver. Ce que les gens veulent, c'est avoir des soins. Les médecins veulent donner des soins. Mais le gouvernement lie le travail des médecins à une performance. Or, tout le monde le sait. Et là, je le dis de façon très objective. Là, tout le monde le sait. Il manque de ressources. Les autres professionnels de la santé qui pourraient donner un coup de main aux médecins sont pas là.
Ben, c'est exactement ça. Tu sais, ça peut sembler séduisant, lier la performance à la rémunération. Normalement, on pourrait penser que c'est raisonnable. Sauf que si j'ai pas les outils pour la livrer, cette performance-là, j'y arriverai pas. Alors, c'est exactement ce qu'on dit. Nous, on veut bien, mais on les a pas, les outils. Alors, comment on peut organiser les choses pour donner plus de services? Parce que est-ce qu'on est d'accord qu'il manque de soins ou à la population? Certainement. Alors, on dit, il faut trouver des moyens à court, moyen et long terme pour arriver à donner ces soins-là de façon intelligente et ciblée de la meilleure façon possible à la population. C'est là qu'on est, puis c'est là qu'on voudrait que le gouvernement soit. Pas sur une question politique, à avoir maté les méchants docteurs demain matin. Ça donnera pas plus de soins, ça.
Et vos collègues spécialistes qui entreprennent aujourd'hui des moyens de pression, est-ce qu'on a commencé à regarder ça du côté de la FMOQ?
Bien, écoutez, c'est sûr que c'est pour moi qui va vous répondre un matin, alors que le président de la Fédération, vendredi, a dit qu'il attendait de discuter avec ses instances politiques. Alors, on va certainement attendre ça. Est-ce qu'on sent de la grogne sur le terrain? Est-ce qu'il y a de la pression sur le terrain pour ça? On la sent, c'est certain. Puis, vous savez, les médecins, là, on n'a pas le droit de faire la grève. Hein? On n'a pas grand moyen de manifester. Alors, si on regarde objectivement qu'est-ce qui peut être fait, sans contrevenir à la loi, sans mettre la population en danger, ça fait effectivement partie des choses et c'est pour ça que la FMSQ l'a fait. Mais on sait très bien que c'est pas de gaieté de cœur là qu'ils l'ont fait, puis on comprend ça. Mais en même temps, j'aurais juste le goût de vous dire, vous savez, le projet de loi 106, là, il prévoit que même les enseignants, les médecins enseignants devront faire du débit. Puis le ministre, il nous l'a dit en chambre, là, lors de la commission parlementaire. Il y a du respect pour l'enseignement et la recherche, mais ce que les Québécois veulent et disent, c'est de l'accès. Ben, on n'aura pas d'accès si on ne forme pas les enseignants, puis il faut que les enseignants aient le temps de le faire. Donc, projet de loi 106, ça va déjà contre l'enseignement. Alors, vous savez, on aura tout ça, la Fédération aura tout ça à prendre en compte pour réfléchir là, aux orientations qu'elle va prendre, puis on va la laisser décider ce qu'elle veut, là, c'est bien certain.
On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc investir dans la prévention, ça pourrait devenir payant. On peut parler même d'une prise de conscience collective de la population à ce niveau-là.
Bien, vous savez, à chaque mois d'octobre, on a les grandes marches Pierre Lavoie qui reviennent année après année. Et encore une fois, cette année, sur le territoire de Lanaudière, c'est 17 marches Pierre Lavoie qui vont avoir lieu. Laurentie-de-Lanaudière, la région que je représente, là, c'est plus de 28 marches. Alors, c'est très important là, comme quantité de marches. Les médecins invitent la population à venir marcher, à prendre soin de leur santé, à mettre de l'avant la prévention, parce qu'effectivement, la prévention, ça coûte moins cher que de traiter les patients. Et puis nous, on y croit à la prévention. Plus que jamais, on doit aller avec la prévention. Malheureusement, le gouvernement actuellement semble pas aller du côté de la prévention, mais nous, on vous le rappelle, participez aux marches Pierre Lavoie. Il y en a 17 sur le territoire de Lanaudière. Alors, gâtez-vous, amenez vos voisins, vos animaux, vos amis, et puis venez marcher avec votre médecin de famille. C'est pour notre santé que ça va se passer.
Et au fil du temps, d'ailleurs, et des années, les marches Pierre Lavoie sont de plus en plus populaires et fréquentées. C'était la docteure Lynn Couture, la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentide-Lanaudière.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Circulation, ouais, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça se passe quand même assez bien en ce moment. Bon, on peut dire qu'on est un petit peu nombreux, le secteur du boulevard du Tricentenaire et d'Henri Bourassa, là, mais on traverse aisément la rivière des Prairies. Secteur Repentigny, ouais, on roule sans problème. Le pont Le Gardeur, facile d'accès par Notre-Dame et Sherbrooke, traversée simple vers la rive nord. Je peux vous mentionner aussi, ouais, l'Assomption, secteur de la 341, là, c'est très, très lourd entre la 40 et le rang du bas de l'Assomption. Oui, c'est assez dense dans le secteur. La 25 Nord maintenant, un petit peu d'achalandage, secteur de la jonction avec la 440. Sinon, pour rentrer sur Terrebonne, ça va bien. Pont Sophie Masson circule librement. Et finalement, autoroute 640, ça se passe bien dans les deux directions, entre la 25 et la 40. L'actualité dans un instant avec Pierre Jubinville.
Jean de Lanaudière, ici Simon Mercier, qui vous souhaite une bonne rentrée. Et surtout, n'oubliez pas que pour acheter ou vendre, c'est...
Et commercial.
Achetez-vous à la maison?
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. Cette semaine, les croustilles tortilla Doritos format sélectionné sont à 2,97. La caisse de bière Corona Extra, 24 bouteilles de 330 ml, est à 30,72. Puis le rôti de bas de palette déjaussé est à 5,97 la livre ou 13,16 le kilo. On fait fondre les prix comme du beurre dans le poêle. Mais ce qui est vraiment capoté, c'est que la grande vente à Yoy, ben ça dure pas juste une journée. Hey, c'est super, super. C'est valide jusqu'au 17 septembre en magasin et en ligne. Détails au supermercé.ca.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croque, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
– 16h32, Pierre Jubinville est là. Pierre, le gros sujet d'actualité aujourd'hui, c'est « Il fait donc tu beau ».–
Il fait donc tu beau, bon, oui. Ouais, il va faire tu beau pour le monde, reste de la semaine.
– Tout le monde qui se rencontre, qui se croise aujourd'hui, c'est « Ah, il fait beau, on est vraiment choyé là, par la nature. »–
Ça dure depuis déjà deux ou trois semaines.
Ouais. – Dame nature là, nous gâte. Pierre, dans l'actualité, un véritable casse-tête là, pour les centres de services scolaires et pour les familles, là, pour assurer le transport des jeunes avec cette mise au rencard là, des centaines d'autobus.
– C'est 1200 autobus de Lyon électriques qui sont immobilisés à la suite d'un incendie qui est survenu mardi dernier, ce qui fait en sorte qu'il y a 50 000 élèves, quand même pas rien, qui sont privés de transport scolaire. Dans la région ici, c'est au centre de services scolaires des Affluents où on est toujours à la recherche d'une solution pour pallier la mise au rencard des véhicules. Il y a 16 circuits qui sont affectés.
L'origine exacte de l'incendie de la semaine dernière demeure pour le moment inconnue, mais la PDG de la Fédération des transporteurs par autobus, Chantal Dugas, indique devoir examiner l'ensemble de la flotte.
Les travaux cette fin de semaine-ci ont mené à une deuxième révision, et là, il y a un changement de pièce qui se fait sur l'ensemble des véhicules Lyon.
Mauvaise nouvelle donc pour plusieurs familles qui espéraient un retour rapide à la normale.
Il n'y a pas 1200 bus de remplacement au Québec en ce moment, là. Alors ça vient impacter tous les transporteurs et le service, évidemment.
Chantal Dugas affirme que cette situation aurait pu être évitée si la nouvelle flotte électrique n'avait pas été entièrement composée de véhicules issus du même constructeur.
L'appui financier du gouvernement venait avec la condition d'acheter du bus Lyon. Je pense que ça aurait pu être fait autrement, parce qu'il n'y a pas juste un fabricant au Québec.
La date exacte du retour des quelques 1200 autobus de Lyon électrique demeure pour le moment inconnu. Thomas Mercier pour Cogeco Nouvelles.
Fait divers maintenant, Pierre. Deux accidents mortels dans la région.
Oui, le premier, 7 heures ce matin sur le rang Sainte-Julie à Notre-Dame-des-Prairies. C'est le conducteur d'une camionnette qui a perdu le contrôle. Il a fait des tonneaux pour aller heurter un poteau d'Hydro-Québec. Le conducteur est un homme dans la soixantaine. Il était seul à bord du véhicule. Puis, à Saint-Donat, la SQ tente de faire la lumière sur un accident qui a fait un mort samedi. Vers 14 heures, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur un chemin sablonneux,
oui.
C'est le cas de le dire, à proximité du chemin du Nordais. C'est à Saint-Donat où une collision face-à-face a impliqué deux motocross et un VTT. Selon les premières informations, les motocross circulaient ensemble dans une courbe sur un chemin, donc lorsqu'ils sont entrés tous deux en collision avec un véhicule tout-terrain qui circulait, lui, en sens inverse.
Pierre, on se souvient tous cet été de cette histoire de la mère de famille qui avait abandonné sa petite fille de 3 ans sur le bord de la route, là.
Oui, cette histoire qui a tenu tout le Québec en haleine. Alors, la mère qui a passé la fillette qui a passé trois jours là, seule sur le bord d'autoroute est déclarée non criminellement responsable. Le verdict du juge fait l'unanimité pour les parties, mais elle ne sera pas nécessairement libérée pour autant.
Toutes les parties s'entendent pour conclure que la mère de 34 ans n'avait pas toutes ses facultés lorsqu'elle a laissé sa fille de 3 ans toute seule près d'une autoroute ontarienne le 15 juin dernier. On confirme aussi que la fillette n'avait ni eau ni nourriture, qu'elle souffrait de plusieurs piqûres d'insectes et bien sûr de graffinures, et que sa couche avait été non changée pendant 3 jours, sans entraîner une infection au niveau de ses organes génitaux. Mais là s'arrête l'entente des parties. Pour la suite des choses, la défense milite pour que la femme habite chez son père et bénéficie d'une thérapie externe. Du côté de la psychiatre au dossier, de même que de la poursuite, on demande une incarcération à l'Institut Philippe Pinel et une réintégration de la société tout en douceur. Le juge Bertrand Saint-Arnaud aura à trancher plus tard. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle, au Palais de justice de Salaberry de Valleyfield.
J'espère dans tout ça que la petite se porte bien aujourd'hui. Là.
Oui, oui.
On parle maintenant du projet d'une école primaire autochtone là, qui chemine dans la région de Joliette.
Oui, le projet a été officiellement déposé aux autorités en éducation en vue de l'ouverture d'une première classe en septembre 2026. L'école sera aménagée par phase dans l'actuel bâtiment qui abrite le Centre d'amitié autochtone de la Naudière à Joliette. Le CAL sera relocalisé dans un nouveau bâtiment qui offrira plusieurs services. Le responsable du projet d'école, Luc Parlavecchio.
On va réaménager le centre d'amitié dans lequel on est actuellement. Et donc, on va ouvrir notre première classe, puis ça va être étalé sur 5 ans. Chaque année, on va ouvrir un cycle. Et pour la première année, on est sur un budget de fonctionnement de à peu près 920 000 $, incluant les travaux de mise à jour de la structure. Et on est en mesure d'apporter déjà le CAL d'investir au moins 20% dans ce total-là de 920 000 $.
D'ailleurs, on vous présentera dans les prochaines minutes une entrevue complète là, avec Luc Parlavecchio là, pour plus de détails sur ce dossier du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Élections Canada, Pierre, qui va enquêter sur des irrégularités lors du scrutin fédéral dans Terrebonne.
Oui, un peu partout au Canada, mais notamment en Terrebonne, parce que c'est un cas qui a retenu l'attention.
Ah, oui.
La candidate du Bloc, Nathalie Sinclair Degagné, avait d'abord remporté l'élection par 45 voix, mais il y a eu recomptage et la victoire est allée à la candidate libérale Tatiana Auguste, mais par une seule voix. Et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'une électrice de Terrebonne a révélé preuve à l'appui que son vote postal lui avait été renvoyé après le scrutin en raison d'une erreur d'adresse. C'est un vote qui aurait pu faire toute la différence. On écoute le directeur général d'Élections Canada, Stéphane Perrault.
Les directeurs du scrutin doivent offrir une beaucoup plus grande gamme de services, beaucoup plus tôt dans le processus électoral. Et quand on n'est pas dans une élection à date fixe, ça met énormément de pression dans le système.
Témoignage, Pierre, de l'ancienne PDG de la SAAQ à la Commission Galant.
Oui, c'est une grosse semaine à la Commission Galant. C'était au tour de Nathalie Tremblay de témoigner. Elle a dirigé la société durant une douzaine d'années. Elle reconnaît que son vice-président, Carl Malenfant, s'est probablement vu octroyer trop de pouvoir durant les années où il orchestrait le fameux virage numérique. La PDG avait délégué certains pouvoirs à M. Malenfant pour que ce soit lui et non elle, qui soit avisée en cas de dépassement de coûts ou de retard dans l'échéancier.
Pourquoi on n'a pas revu cette politique de gouvernance-là, ou casa pas casa, là, mais on parle de gouvernance puis de gestion de risque? Je pense que ça aurait été sage. On l'a pas fait.
Et c'était journée de rentrée parlementaire à Ottawa.
Un premier face-à-face, Claude, entre Mark Carney et Pierre Poilievre, qui vient d'être élu en Alberta. Et pour une rare fois, ils semblaient être sur la même longueur d'onde. On écoute un extrait.
J'aimerais remercier mes commettants à Battle River Crowfoot, M. Kirk, qui est le premier à avoir déclenché un partiel très rapidement. Je pense que parfois, il va regretter cette décision. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec la mission de rétablir un Canada où le travail acharné est récompensé.
Oh, je suis tout à fait d'accord avec les sentiments, les objectifs que le chef de l'opposition vient d'exprimer.
Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde s'entend.
Ils sont très heureux.
Oh oui.
Il faut ajouter quand même que tout indique qu'il y aura un déficit de quand même 100 milliards de dollars dans le prochain budget que déposera Mark Carney cet automne. Et donc, c'était jour de rentrée. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a refusé de dire s'il appuiera le budget libéral.
Ça regarde bien mal. Je vois pas comment on peut approuver un budget tellement, dans le chiffre, parce qu'on n'a pas le détail, irresponsable, qui fait passer Justin Trudeau pour une mère économe. Cela dit, ne me demandez pas, puis vous allez devoir être bien, bien, bien patient là-dessus, comment on va voter au budget, puis comment on va voter ici, comment on va voter ça.
La mère économe, ça fait longtemps que je l'avais entendu,
l'as
celle-là.
L'as de la clip.
Merci, Pierre Jubinville.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, avec Claude Fournel.
CFNJ. 99.1, 88.9.
Lanaudière PM, Première Nation.
On vous en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine et la semaine dernière même, projet d'école primaire privée qui va accueillir exclusivement des jeunes autochtones qui cheminent présentement. François Morin en a parlé avec le responsable du dossier au Centre d'amitié autochtone de la Naudière, Luc Palavecchio.
On a pu déposer une demande au ministère de l'Éducation le 1er septembre. Donc, ça devient de plus en plus concret. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment, un partenariat aussi du centre de service qui nous appuie là-dedans. Donc, centre de service des Samars. Donc, vraiment, ça avance très bien.
La mémoire collective étant ce qu'elle est, est-ce qu'on peut rappeler là vers quel type d'école on veut réaliser?
Oui, ça part. On a détecté dans la Naudière notamment, mais c'est assez généralisé à l'ensemble de la province. Les élèves autochtones sont en situation d'échec académique. Donc, je pense que dans la Naudière, c'est à peine 60% des parents, enfin des personnes autochtones, qui ont leur secondaire 3. Et donc, il y a quelque chose qui dans le système fonctionne mal. La vérificatrice générale, d'ailleurs, l'a nommé dans son rapport en novembre 2024. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Donc, on a proposé au centre de service et au ministère de développer une école primaire autochtone alternative. Et de façon à pouvoir répondre au mieux aux enjeux de sécurité culturelle, de traumatisme intergénérationnel, aux enjeux liés aussi tout simplement à l'identité culturelle autochtone et à la façon d'apprendre les choses. Donc on leur a proposé de monter une école primaire avec pour objectif qu'à la fin du cycle primaire, ils puissent transitionner vers le secondaire et un secondaire allochtone tout à fait régulier.
Alors, si on parle d'une école strictement destinée là, aux jeunes autochtones, on parle plus d'une école privée.
Alors, ça, c'était une question qui s'est posée, mais effectivement, le modèle qu'on a retenu, ça serait une école privée spécialisée. Donc, spécialisée dans une approche en sécurité culturelle et dans la prise en compte des traumatismes intergénérationnels, ce qui touche quasiment 100% de la population autochtone avec les impacts du colonialisme et de l'histoire. Vous connaissez ces enjeux-là. Et donc, effectivement, ça serait une école spécialisée privée dans la mesure où on veut aussi pouvoir choisir notre direction d'école, choisir nos enseignants qui devront suivre même un parcours de formation de façon à ce qu'il soit le plus pertinent possible dans un contexte autochtone.
Et tout ça, évidemment, assorti, en fait, parce que ça devient obligatoire, évidemment, d'une formation de base générale.
Oui, formation de base générale. Ça, vous parlez pour les enseignants ou pour les enfants? Oui, non. En fait, ça, c'est vraiment très important. On veut pas être en rupture avec le système éducatif québécois. On veut intégrer le système éducatif québécois tout en y intégrant les éléments culturels autochtones, une pédagogie aussi qui soit propre aux autochtones. Donc, on veut faire ça de façon à justement que par la suite, en secondaire, au collégial et à l'université, ces jeunes enfants-là puissent intégrer un parcours académique où la majorité est allochtone et puissent performer, je ne sais pas si c'est le terme, mais puissent réussir de façon à ce que plus tard, ils contribuent aussi au projet de société que propose la Naudière.
Et là, on se retrouve avec une nouvelle ministre de l'Éducation qui était au Trésor avant, qui a imposé des compressions, si on veut, dans l'appareil gouvernemental. François Legault, qui a lancé un message dans le même sens hier, qu'il y aura une cure minceur. Est-ce que on est confiant d'obtenir ce qu'on a besoin pour réaliser le projet?
Alors, on est confiant d'obtenir ce qu'on a besoin parce que le milieu autochtone est déjà sous-financé, notamment en éducation, puis il y a peu d'actions qui ont été entreprises depuis 25-30 ans. Il y en a quelques-unes, mais la vérificatrice générale dénotait qu'il n'y en avait pas eu suffisamment. Donc oui, on est confiant parce que les signaux qu'on a de la part du milieu politique, mais aussi du milieu de l'éducation, c'est que ce projet-là est pertinent. En même temps, c'est vrai que les changements, le fait que M. Legault ait dit que l'éducation ne soit plus une priorité, m'insécurise actuellement un petit peu et j'ai hâte de pouvoir avoir des échanges avec le ministère de l'Éducation pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement.
En terminant, Luc Palavecchio, à ce stade-ci de l'avancement du projet, est-ce qu'on a une idée des coûts et du moment où on pourrait y aller d'une première pelletée de terre?
Oui, alors en fait, on va pouvoir commencer dès l'année prochaine. Donc notre objectif, c'est d'ouvrir une classe en septembre 2026. On a déjà le bâtiment, c'est le bâtiment dans lequel on réside actuellement, mais comme vous le savez, on va déménager dans une autre structure qui sera prête en septembre 2026. Donc on va réaménager le centre d'amitié dans lequel on est actuellement. Et donc on va ouvrir notre première classe, puis ça va être étalé sur 5 ans. Chaque année, on va ouvrir un cycle. Et pour la première année, on est sur un budget de fonctionnement de à peu près 920 000 dollars, incluant les travaux de mise à jour de la structure. Et on est en mesure d'apporter déjà le cal d'investir au moins 20% dans ce total-là de 920 000 dollars.
Ce sera gros, d'ailleurs, cette nouvelle bâtisse là, du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. On va inclure donc une classe là, pour débuter. C'était Luc Parlavecchio qui est en fait responsable du dossier de cette école privée primaire du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. 16h47, dans un instant, Pierre Paquette.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. Cette semaine, les croustilles tortilla Doritos format sélectionné sont à 2,97. La caisse de bière Corona Extra, 24 bouteilles de 330 ml, est à 30,72. Puis le rôti de bas de palette déjaussé est à 5,97 la livre ou 13,16 le kilo. On fait fondre les prix comme du beurre dans le poêle. Mais ce qui est vraiment capoté, c'est que la grande vente à Yoy, ben ça dure pas juste une journée. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 17 septembre en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, t'as passé un beau week-end?
Ben oui, excellent. On a tellement de la belle température. Là.
On peut pas se plaindre.
On peut pas se plaindre. Non, de ce point de vue-là, on peut pas se plaindre. Il y a bien d'autres choses à se plaindre, mais pas ça.
Oui, oui, surtout de l'autre côté de la frontière, la police fédérale américaine là, qui affirme avoir des preuves ADN qui relient le suspect Tyler Robinson là, au meurtre du militant d'extrême droite Charlie Kirk. Il y a le directeur du FBI, Cash Patel, qui a indiqué aujourd'hui là, que l'ADN a été trouvé sur une serviette enroulée autour d'une arme qui a été trouvée près du lieu de l'assassinat et qu'elle correspond à cet ADN, à celle du suspect Tyler Robinson, qui est âgé de 22 ans. C'est de l'ADN qui le relie aussi à un tournevis qui a été récupéré sur le toit où le coup de feu mortel a été tiré. Je pense que c'était à quelque chose comme 150 mètres. Et le suspect aurait aussi rédigé une note qui indique qu'il avait l'intention, en fait, l'occasion de, s'il pouvait, d'éliminer Charlie Kirk. Et Tyler Robinson, d'ailleurs, va comparaître en cours demain.
Oui, alors évidemment, c'est des événements qui sont tellement tragiques, mais qui font partie de l'histoire des États-Unis. Là, il faut se rappeler les Kennedy qui ont été assassiné Luther King. Alors, la violence a toujours été présente.
Oui, mais là, on est loin de John F. Kennedy, là, quand même, c'était
oui,
pas un élu.
C'est
là.
Ça. Là, le problème qui se pose, c'est que le président américain attise aussi, je dirais, cette violence-là par des propos qui sont absolument pas fondés là, pour le moment. On connaît aucunement les intentions, les raisons qui ont amené Tyler Robinson à tirer. Moi, je pense, j'ai pas de doute à l'effet que ce soit lui qui ait tiré sur Charlie Kirk. Mais là, c'est toutes les spéculations autour de cet événement-là, de cet événement tragique, qui sont disons, assez caricaturale de la politique américaine actuellement. Trump qui dénonce la gauche radicale, alors qu'ils n'ont aucune preuve que Tyler Robinson soit de gauche, ou même, ce serait plutôt l'inverse. Comme on a appris, ses parents sont des Mormons. Lui-même a été élevé dans cette religion-là. Bon, il s'était éloigné, semble-t-il. Mais le gouverneur de l'Utah, lui, a pas pris par quartier à main la chose. Il a dit que Tyler Robinson vivait avec était en amour avec un transgenre. Alors que tout ce qu'on sait jusqu'à présent, ça serait que ce serait son colocataire. Mais lui, il a pas pris, des chemins trop compliqués. Il en a pris pour conséquence que Tyler Robinson était en couple avec ce colocataire. Pour le moment, on n'a pas. Alors, c'est ça qui est absolument déplorable actuellement.
Mais là, je t'arrête un instant. Oui, je t'arrête un instant parce que là, tu as parlé de ses parents étaient en fait des Mormons. C'est une religion assez particulière qui est très présente d'ailleurs dans le secteur de Salt Lake City aux États-Unis. Ces religieux-là sont très très à droite là.
Oui, très traditionnaliste. C'est quand même assez surprenant que Tyler Robinson soit parti d'un environnement qui était quand même très religieux, puis se soit converti tout à coup à la gauche radicale. Il y a bien des rapports qui laissent entendre plutôt qu'il serait parti d'un. Puis là, encore une fois, ces rapports-là, ça peut être aussi de la désinformation, qui ferait partie d'un mouvement nationaliste d'extrême droite mené par un Mike Fuentes. Mike Fuentes a justement demandé au président Trump de dévoiler toutes les informations qu'ils avaient sur Tyler Robinson. Alors donc, on est en pleine politique fiction là au moment où on se parle.
Oui.
Et c'est devenu, une bataille idéologique.
Mais pourquoi un militant d'extrême droite abattrait un autre militant d'extrême droite? Là, c'est dur à comprendre.
Certains rapports, encore une fois, que j'ai lus, disent qu'actuellement, il y aurait une guerre civile à l'intérieur de l'extrême droite et des républicains. Alors, ce serait des républicains qui d'autres républicains qui considèrent être moins à droite qu'eux et qui veulent s'en débarrasser. Alors, c'est encore une fois, tout ça, ça fait partie de cette désinformation ou cette atmosphère toxique là qui existe aux États-Unis où on invente des théories du complot et c'est très difficile de décerner ce qui est la vérité de ce qui est des allégations qui sont non fondées. Par exemple, là, on laisse entendre depuis des jours que la gauche serait radicale, serait plus violente que la droite, l'extrême droite, mais les chiffres démontrent l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 11% des attentats politiques qui ont été faites aux États-Unis depuis 1975 sont le fait de l'extrême droite. 2% de personnes qui étaient proches d'une idéologie de gauche. Ça veut dire 5 fois plus d'attentats qui ont été faits par des militants d'extrême droite que par des militants d'extrême gauche. Alors, c'est quand même assez révélateur.
Là, tu peux en référer aux attentats, par exemple. Il y a une discothèque gay en Floride. Là, il y avait eu un attentat là-bas. Là, on peut relier ça à l'extrême droite, clairement. Là.
Oui, c'est ça. Je dis 11% puis 2% dans un cas. Le reste, c'est des attentats qui sont probablement plus liés à des questions internationales, là, comme les deux tours à New York. Alors, on est dans une situation où, pour le moment, là, il y a beaucoup de spéculation. Alors, il va être intéressant de voir la comparution du suspect demain devant la cour, puis peut-être qu'on en saura plus au cours des prochaines semaines. Mais tout ça pour dire aussi qu'on met sous le tapis le fait que, par exemple, Melissa Horton, une élue démocrate, et son mari ont été tués il n'y a pas si longtemps que ça. C'était des gens qui étaient démocrates. Elle, c'est-à-dire, était représentant démocrate à l'Assemblée du Minnesota. Le mari de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, qui a été attaqué. Alors, ça, on n'en fait pas de cas. Bon, je comprends très bien que Charlie Kirk, c'est quand même un geste extrêmement important là de l'avoir tiré de cette façon-là. Mais il faut pas non plus négliger les autres attentats et les autres assassinats qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Là. On parle pas de siècles.
Maintenant, Pierre, ce qui inquiète particulièrement les observateurs de la politique américaine, c'est l'esprit de vengeance des républicains envers les démocrates.
Oui, mais encore une fois, là, récemment, si on écoute un peu le discours de Trump, au départ, il dénonçait de façon virulente la gauche radicale. Là, il a commencé à se raviser puis à demander de ne pas recourir à la violence parce que, d'abord, on n'est pas sûr, encore une fois, des motifs du tueur. Puis deuxièmement, ben c'est pas à son avantage de voir la polarisation s'exacerber à ce point-là à un an des élections de mi-mandat.
Oui, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça pourrait mener à une guerre civile, là.
Ben, il y a du monde qui commence à avoir peur de ça. Il y a même eu un film, hein, comme tu sais, qui a sorti juste avant l'élection de Trump sur cette question-là. Donc, je pense qu'il s'aperçoit que en créant peut-être ce climat d'incertitude, il est en train de nuire à ses chances lors de l'élection de mi-mandat. Donc, il s'est ravisé. Peut-être aussi que effectivement. Taylor Robinson est un militant d'extrême droite encore plus radical que l'était Charlie Kirk et que c'était le motif de son assassinat. Et dans ce contexte-là, ben ça desservirait complètement la cause républicaine, c'est-à-dire toute la rhétorique qui est actuellement le fait des républicains.
Donc, alors, je pense que en résumé, Trump, Pierre, dans ce que tu racontes, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a présentement de sérieuses divisions à l'intérieur même du Parti républicain.
Ben c'est ce qui semblerait, ce serait une des manifestations de cette division-là, ben c'est justement l'attentat dont était victime Charlie Kirk. Et ce mouvement-là, nationaliste blanc, là, auquel serait relié Taylor Robinson, Mike Fuentes, ils ont toutes sortes de traditions ou de symboles. Et on a retrouvé sur les cartouches ou les balles qui ont été tirées par Taylor Robinson, c'est lui qui a tiré, comme je vous dis, moi j'ai l'impression que là-dessus, il n'y a pas de doute, des inscriptions comme et fasciste, des inscriptions qui sont associées à la gauche. Mm. Et c'est de là qu'est parti, entre autres, le gouverneur de l'Utah pour dire que c'était la gauche radicale. Mais il semblerait que ça fait partie aussi de la culture de ce parti ou de ce mouvement d'extrême droite. Ça vient de jeux vidéo auxquels Taylor Robinson était très, très souriant. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir au cours des prochaines semaines. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus rassurant. On sait même qu'il y a des journalistes à Montréal qui ont été menacés par l'extrême droite américaine récemment. Donc, faut espérer que ça se calme et qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé.
Merci Pierre, et on rappelle que Taylor Robinson doit comparaître en cours demain. On se reparle mercredi,
exactement.
Pierre.
Bye, merci.
Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel, je vous souhaite une excellente soirée. Nicolas Bellemare s'en vient dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 Trad. Et nous, on se retrouve demain à compter de 16h pour une autre édition de La Nausière PM. Bonne soirée!